C'est parti. Donc Terra Fossa, on s'était parlé il y a fin 2018 pour la sortie de votre EP éponyme. Finalement, quoi de neuf depuis cette période à part l'arrivée de l'album?
Ben, en réalité, pas grand chose, puisque c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de tourner à la suite de l'EP. Donc, on a tout de suite enchaîné sur l'album finalement, en fait, hein.
D'accord. Finalement, de l'expérience de l'EP ou même du premier, enfin, qui était plus une démo, en quoi ça vous a préparé ou donné une certaine expérience pour qui a eu un impact sur l'album?
Tu veux dire en quoi l'EP a été
Est-ce que ça a été une étape que vous jugez importante et qui vous a servi en termes d'expérience, ne serait-ce qu'en studio, ou bon, c'était comment dirais-je, un moment particulier, mais qui a pas plus que ça marqué l'album?
Bah, je pense que ça a eu si ça a forcément eu un impact parce que chaque enregistrement qu'on fait. En général, on en ressort grandi un peu, que ce soit en termes de, aussi bien en tant que musicien qu'en tant que, on va dire, compositeur. Donc, ça a forcément une impact, mais après, je suis pas certain que ça se ressente directement sur l'album, quoi.
D'accord. Peut-être juste avant d'aller plus en détail sur l'album et sa création, tu peux peut-être nous parler un peu va te présenter toi et ton parcours artistique qui a amené jusqu'à cet album.
Alors moi personnellement, j'ai découvert le métal. Enfin, j'ai d'abord découvert le hard rock grâce à mon père qui me faisait écouter des vinyles, ces vinyles CDC quand j'étais petit.
Mmh.
Donc ça m'a naturellement mené petit à petit vers d'autres styles qui sont associés au hard rock finalement. Alors, ensuite j'ai découvert le métal grâce à Slipknot qui a été un peu mon groupe porte d'entrée vers ce style.
Tu
Et
jouais
après,
déjà de la guitare à ce moment-là ou?
la guitare, j'ai commencé la guitare vers 10 ans et ça a été, j'ai, comment dire, Slipknot est arrivé au moment où je commençais la guitare, à peu près, un petit peu après.
D'accord, ok.
Et c'est à ce moment-là, donc voilà, tout ça, ça m'a en gros permis de découvrir tous les autres styles de métal qu'il y avait, qui existent derrière. Enfin, pas simplement voilà, Slipknot, ça m'a permis de découvrir le black, le DF, etc. Enfin, tout ce qui est derrière, quoi. Et ça a été, je pense, le moment où j'ai vraiment voulu faire un groupe, en fait. Enfin, j'ai découvert Slipknot, donc vers 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, Martin, il y a en 2018, on avait parlé avec lui, mentionné ouais quelque chose d'autour de 13 ans, quelque chose comme ça, ou voilà,
Voilà.
à l'adolescence, quoi.
Et sauf que moi, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de former de groupe. C'était plutôt, voilà, je jouais avec des gens ici et là, mais jamais rien de très sérieux. Et donc, voyant ça, mon frère s'est mis à la basse. Et c'est voilà, il voyait que j'avais du mal à fonder un groupe avec des gens qui pouvaient avoir comment dire, avec lesquels on pouvait faire quelque chose de sérieux. Donc il s'est naturellement mis à la basse et lui il a directement progressé au sein du groupe et Martin qui était son ami d'enfance du coup a rejoint aussi très très vite. On lui a proposé de faire de la batterie puisqu'à l'époque il était tout le temps avec mon frère
D'accord.
et c'est comme ça que le groupe est né quoi.
Ok, bah donc vous avez choisi les instruments pour être armés, pour pouvoir effectivement faire un groupe en autonome, quoi.
Oui.
Est-ce que tu as des musiciens ou des groupes qui sont un peu tes références et qui ont nourri et qui continuent de construire un peu ton identité musicale?
Ah ouais, il y en a beaucoup. Alors bon, il y a déjà tout ce qui est bon, Meshuggah, parce que c'est le en termes de technique rythmique, c'est pour moi ça a été une grosse découverte. Ensuite, le black metal avec des groupes comme Gorgoroth, ça aussi, ils ont joué un rôle assez important dans mes influences, surtout sur tout ce qui est un peu, voilà, le côté un peu sombre de la musique du groupe, etc. Et puis, en guitariste pur et dur, ça serait Slash, Zakk Wylde. J'aimais beaucoup aussi le guitariste de Slipknot, Nick Thompson. Et après, ce qui est arrivé un peu plus tardivement, c'est tout ce qui est musique classique, qui m'ont aussi, ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré, de par la qualité de l'écriture, en fait, de lier à ça, quoi, la musique classique, la musique romantique, etc.
D'accord, ok. Je dirais, à l'écoute des musiciens que tu mentionnais, on comprend peut-être la Les Paul que tu as l'air d'utiliser principalement sur tes. Enfin, en tout cas dans les vidéos.
Ouais, alors c'est sûr que la Les Paul, ça a toujours été pour moi la guitare mythique, mais avant d'être la guitare mythique, parce qu'elle est aussi utilisée par Slash ou Zakk Wylde, ou sur deux personnes. Avant, quand j'étais petit, j'entendais souvent mon oncle et mon père parler de guitare, parce qu'ils étaient tous les deux musiciens amateurs, et c'était guitariste, et ils parlaient souvent de guitare, et j'entendais souvent cette espèce de petite guerre entre Fender et Gibson.
D'accord.
Et en fait, j'ai essayé les deux, simplement. Mais la Gibson a un truc que je sais pas, que je saurais pas expliquer. Ça, déjà visuellement, il se passe quelque chose. Et en plus, le son et je le trouve exceptionnel, quoi. Donc c'est vrai que c'est un instrument que je saurais pas. Je sais pas. Il y a un attrait naturel pour la Les Paul.
Non, non, mais c'est un excellent choix, un peu. Ce n'est qu'une, c'est, y a un choix important et les Paul sont excellentes pour ça. C'était juste parce que ça me, voilà, comme je regardais les clips et puis tu mentionnais les musiciens, je dis, ah, bah, le lien est peut-être là, mais, à l'époque, hein, donc en 2018, Martin nous avait raconté que, t'es quand même la principale force créatrice du groupe. C'est souvent toi qui démarres avec, en proposant des titres, en travaillant sur des riffs.
Ouais.
Qui structure les chansons. C'était la même chose pour en préparation de Transcendance?
Globalement, oui, ça a été la même chose. Après, la différence qu'il y a eu, c'est que Mathieu et Martin se sont un peu plus impliqués quand même là-dessus, sur cet album-là. Martin, par exemple, s'est beaucoup plus impliqué dans tout ce qui était arrangement de batterie, certaines parties sur certains morceaux, etc. Et Mathieu, c'était pareil, il a composé certaines lignes de voix et il a aussi coécrit pas mal de textes.
D'accord. Mais donc vous travaillez comment tous les trois tu structures tes idées je sais pas, sur un fichier, vous échangez des fichiers, chacun travaille sa partie, vous écoutez ensemble.
En général, ce qui se passe, c'est que je fais les démos sur mon ordi, quoi. Et le groupe vient voir ce que je fais. À l'issue de ça, ils émettent leurs idées si ils ont quelque chose à dire. Et après, ce qui se passe, c'est on répète, là, en l'occurrence en studio, on fait des petites retouches éventuellement. Après, pour le texte, c'est différent. Les textes, par exemple, Mathieu les a écrits de son côté, moi du mien. On les a mis en commun et on a réfléchi tous les deux sur le choix des mots, des phrases, etc.
D'accord, ok, d'accord. Donc justement, contrairement au pour l'enregistrement, contrairement donc aux expériences précédentes, vous n'êtes pas allé loin en Scandinavie en Finlande, mais vous êtes resté plutôt dans le coin en travaillant avec Francis Cast au studio Saint-Marthe à Paris. Pourquoi lui et qu'est-ce que tu peux me dire en général des sessions d'enregistrement de Transcendance?
Alors, en fait, Francis nous a été recommandé par notre éditeur qui, au vu de notre musique et puis nous connaissant bien, a estimé que ça serait sûrement la bonne personne pour faire l'album, puisqu'on devrait, il pensait qu'on s'entendrait bien avec lui. Et qu'il comprendrait bien la musique du groupe voilà, comme il fait des prods toujours de qualité, il nous a conseillé Francis. Donc du coup, On a rencontré Francis et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu un très bon contact, aussi bien humainement que professionnellement. Et puis il y avait aussi l'autre raison qui a fait qu'on a voulu faire ça avec Francis, c'est qu'on voulait faire ça tout simplement en France pour cet album. En tant que groupe français, on voulait voilà faire notre premier album en France avec un producteur français.
Et en plus à Paris, c'est pas plus mal, c'est relativement proche.
Exactement.
D'accord. Combien de temps ça vous a pris? Tu peux me donner un peu d'idées de calendrier? Combien de temps de compo? Combien de temps sur l'enregistrement même? Jusqu'à après, mixage et finalisation, mastering?
Alors les compos c'est un peu difficile parce que il y en a qui sont en fait comme tout est composé très régulièrement, il n'y a pas de période de création et de période de vide complet dans Terrafosa. Il y a toujours de la création un peu très régulièrement. Du coup, les morceaux sont un peu étalés sur une durée beaucoup plus vaste que la durée d'enregistrement. Il y a des morceaux qui sont là depuis vraiment qui étaient là depuis déjà quelques mois, etc. Par contre, l'enregistrement, lui, s'est fait en un mois avec le mixage et le mastering compris. Donc, en fait, l'enregistrement lui-même a duré moins de un mois. Mais on a eu pour le mastering et le mixage, on a eu, je crois, une semaine, quelque chose comme ça.
D'accord. Donc comme tu disais, vous étiez donc quasi, tu disais comme quasiment était tout calé au moment de rentrer en studio. Et après, vous vous êtes laissé quelques libertés sur tel ou tel aspect.
Ouais, en gros, c'est ça, hein, en fait. Déjà en studio, on a eu un peu l'occasion de pouvoir tester différents matériels, différents amplis, différentes caisses claires, différents charlets, etc. Donc différentes configurations pour la basse aussi. Donc du coup, ça c'était sympa. On a pu faire un peu ce travail, un peu de prospection. Et après, au niveau des morceaux, bizarrement, enfin quand on est studio, des fois il se passe une espèce de petite magie et on se rend compte que ce qu'on avait fait en répète ou à la maison, finalement ça colle peut-être pas parfaitement ici et que ça serait peut-être intéressant de trouver quelque chose pour le remplacer ou du moins de le modifier. Et c'est voilà, c'est ce genre de choses qui s'est passé au studio.
D'accord. Donc sur l'album apparaît 8 titres. Vous en avez finalisé 8 ou vous en avez enregistré plus et vous en avez retiré certains?
Non, on avait prévu 8, on est arrivé, on a enregistré 8.
D'accord.
A
Donc
pas
il
eu de... Tout était prêt, et... enfin, tout était prévu et ça a été fait tel que c'était prévu.
Ok. Une petite question qui peut paraître un peu surprenante ou naïve, mais je trouve ça assez intéressant de voir un peu le détail des coulisses. Comment vous avez travaillé le tracklist order?
Alors ça, en fait, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement et comment dire, plutôt au feeling. On s'est pas dit, enfin, on voulait de toute manière débuter l'album avec Stigmata. On voulait quelque chose d'assez agressif au départ, et on voulait le terminer avec le morceau orchestral pour un peu comme une conclusion qui serait purement musicale. Et entre les deux, ça s'est fait vraiment au feeling, c'est-à-dire ce qu'on sentait comme morceau l'un après l'autre. Il y a pas vraiment d'ordre lié à une histoire ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus un feeling par rapport à un morceau et lequel enchaîne bien, lequel a l'air le plus logique après tu vois, les uns après les autres, quoi.
Donc il n'y a pas eu, parce que, je sais pas, il n'y avait pas eu spécialement de débat de dire ah ben le plus long c'est Mother Night, on le met en 3, est-ce qu'il faudrait pas le mettre plus tard dans l'album ou non, c'était ce qui vous a semblé le plus naturel dans le flow.
Voilà, c'est plus ça.
D'accord. Ce qu'on peut dire est-ce que donc par rapport à l'expérience par rapport à l'expérience finlandaise, dans la façon de travailler ou la façon d'aborder ou le type de conseil qu'il a pu vous apporter, c'est très différent ce que vous a proposé Francis Cast que ce que vous aviez pu vivre dans le passé?
C'est pas très très différent, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire que y a quand même, on retrouve des choses similaires entre Yann et Francis. La grosse différence, c'est que comment dire, déjà y a pas la barrière de la langue. Alors même si c'était pas un problème d'échanger avec Yann en anglais, mais c'est juste que naturellement, voilà, forcément c'est toujours un peu plus complexe que quand on parle avec enfin en français, avec notre langue maternelle. Il n'y a pas vraiment une différence. Ils avaient ce point commun de tous les deux vouloir te pousser au maximum à donner la meilleure performance. Donc après ils ont voilà chacun des sensibilités différentes. Donc c'est sûr que avec Francis on a plus travaillé le son dès le début. Et on a plus tout de suite réfléchi au son final alors qu'avec Yann c'était plutôt vers la fin. C'est-à-dire que on avait quand même déjà des bribes du son, de l'idée du son d'où on allait, mais on ne savait pas exactement comment ça allait se terminer. Alors qu'avec Francis, c'est quelque chose qu'on a prévu directement.
D'accord. Et un autre aspect particulier, en tant que pour assurer tes parties de chant, donc il y a une alternance entre chant clair et chant extrême. D'abord, est-ce que tu te considères comme un guitariste qui doit chanter parce qu'il faut le faire, ou comment t'abordes le chant, et est-ce que c'est un aspect que tu as travaillé spécifiquement différemment peut-être sur l'enregistrement de l'album par rapport aux sessions précédentes?
Alors, la voix était un peu plus, je pense, un peu plus travaillée sur cet album que sur l'EP. Elle a été un peu plus réfléchie en tant qu'instrumentelle, telle quelle. Après, c'est vrai que je me considère plus comme un guitariste que comme un chanteur. Donc, parce que dans l'histoire du groupe, finalement, au tout début, vraiment, on comptait avoir un chanteur ou une chanteuse. On n'était pas très regardant à ce niveau-là. Il se trouve qu'on n'en a pas trouvé et que pour le premier concert du groupe, j'avais dit au groupe, bon, bah, c'est pas grave, je vais chanter. Puis, les prochains, après ce concert, on cherchera un chanteur ou une chanteuse et voilà, quoi. Sauf qu'en fait, ça s'est jamais vraiment fait. Une fois que le pli était pris, c'est parti comme ça. Mais à la base, c'est pas quelque chose que je voulais spécialement faire, moi, chanter. Donc, ça me demande un peu un double travail, à la fois guitariste et à la fois chanteur, donc je dois réfléchir à la voix en tant que comme un peu comme je réfléchis à la guitare. Et pour cet album, c'est ce que c'est je pense que c'est ce, ça se ressentira. Il y a plus la voix était plus voilà plus travaillée que sur l'EP.
D'accord, mais la démarche est quand même particulière. Bon, se dire, bon, pour le premier concert, je rends service, ça m'arrange, je prends le micro, c'est pas très grave. De dire, bon, bah ça s'installe, mais il y a aussi le besoin de. Bah, le chant extrême, c'est une technique particulière que, enfin, je peux pas dire, bah demain, tiens, dans 1 heure, tu chantes en guttural. Enfin, c'est quand même pas très particulier. Voyant le fait que ça allait, que vous alliez pas recruter quelqu'un et que t'allais stabiliser dans le rôle de chanteur également, t'as dû travailler la partie technique?
Oui, forcément, ouais. Après, c'est vrai que la voix, je l'ai fait quasi, je l'ai pas, je l'ai fait à 100% en autodidacte. Donc, il y a eu des fois où c'était pas évident. La partie, justement, tout ce qui est un peu growl, etc. C'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure. C'était pas tout à fait optimal au début, vu que j'ai tout appris tout seul. Donc, j'ai dû me mettre à la technique, mais j'ai appris, voilà, tout seul, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est un élément sur l'aspect purement technique du travail pour éviter de te flinguer les cordes vocales de 30 en mouvement, ou?
Ouais, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé de me destroy complètement en répète ou même en concert parce que j'avais pas la bonne méthode. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur ça, sur comment chanter comme ça et se préserver, et préserver sa voix quoi. C'est surtout à ce niveau-là en fait.
D'accord. Dans la perspective de pouvoir enchaîner des concerts, peut-être à rapprocher, il faudra effectivement que tu t'imposes un soin particulier des cordes vocales, quoi.
Ouais, oui, carrément, ouais.
L'autre élément, c'est quand on est un groupe où on alterne les différents types de chants, est-ce que vous définissez très tôt quelle partie va être chantée de telle façon, ou vous faites des essais? Enfin, comment vous définissez?
Ça, c'est assez naturel, en fait. La musique va dicter un petit peu la voix, quoi. Et ça dépend aussi un peu de la structure du morceau. Si on est sur quelque chose qui est en, comment dire, qui est crescendo, qui monte en intensité, il est probable que je fasse monter cette intensité avec un son clair et que je le ponctue avec un growl, comme un peu voilà, le summum, l'apothéose du truc, quoi. Mais ça se fait vraiment au feeling, ça.
D'accord. Si on regarde un peu les thématiques abordées, on peut pas dire que c'est très, comment dirais-je, joyeux. Ça, c'est très, et c'est pas une critique, c'est même plutôt, enfin, c'est très cérébral. On voit bien que vous travaillez vos sujets. Alors, il y a tout l'aspect sur stigmata, sur le rôle de, voilà, de la douleur et en quoi ça fait partie de soi-même. Et puis ça permet d'avoir une meilleure compréhension de soi. Où il y a le deuxième titre qui est plus sur l'aspect du temps. Ça vous vient assez naturellement? Comment vous travaillez ces aspects-là? Donc vous êtes surtout deux paroliers, si j'ai bien compris.
Ouais, ça c'est aussi, c'est assez naturel. C'est des sujets qui de base nous intéressent et nous concernent. Après, ce qu'on fait, c'est que on essaie de les développer chacun avec nos petites variations et de les mettre en commun, quoi. Mais oui, déjà, ce sont des sujets qui, avant d'être incorporés dans les paroles du groupe, sont des sujets qui nous concernent ou nous intéressent. C'est ça la principale source, en fait, des paroles, quoi.
D'accord, mais on peut imaginer dans le futur des compositions plus légères ou non, c'est pas vraiment d'actualité.
Je sais, j'avoue que je ne pense pas vraiment que. Parce que le but aussi de Terrafosa, c'est toujours un petit peu de susciter, comment dire, d'inciter un peu à la réflexion sur ce qui nous entoure, sur notre rapport aux autres, sur pas mal de détails. Et ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement tendance à faire déjà rien que nous, quand on parle entre nous. Donc je suis pas sûr que qu'on verra des sujets très très légers avec Terrafosa, quoi. Peut-être
D'accord.
hein, mais je suis pas sûr.
Ok. Il semble aussi sur les paroles que vous fassiez un effort sur le de comment dire de d'intégrer ça ou de mettre ça dans un comment dire, dans un certain univers classique. Enfin, on voit sur vos paroles, on parlait de Chronos, Arachné, Dies Irae. Enfin, il y a une
Ouais.
volonté de s'inscrire dans un certain, enfin, classicisme littéraire ou culturel ou.
Ah ouais, complètement. Ça c'est je sais pas, je saurais pas exactement comment enfin expliquer le pourquoi, mais c'est vrai que tout ce qui est comment je pourrais dire, ce sont des sujets ou des thèmes qu'on retrouve dans des œuvres assez profondes ou dans des domaines assez vastes et complexe et ça c'est naturel pour nous d'essayer de creuser ces trucs-là qui nous intéressent, quoi, en fait, hein.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Si on regarde finalement entre les tout débuts du groupe, donc on l'a dit, c'était vraiment le monter en expérience, gagner en connaissance artistique, etc. Et un premier album 13 ans plus tard, donc entre 2007 et 2020, ça fait long. Est-ce que bon, on peut penser que la suite va être beaucoup plus rapide?
Ah ouais, elle sera plus rapide, ça c'est certain. Parce que ce qui explique aussi cette période de où il y a eu très longue, qui est des fois peut perturber un peu, c'est que avec le groupe, comme on a commencé très jeune, on a fait des démos, on a déjà fait plein de petites maquettes, des petites démos, etc. Et le truc, c'est que comme on évoluait très rapidement musicalement en termes de style, à chaque fois, on se retrouvait avec des productions qui ne représentaient plus exactement le groupe. Et on n'a jamais vraiment voulu mettre ça en avant. On n'a jamais vraiment voulu proposer, distribuer quelque chose qui nous représentait plus à 100%. C'est pour ça que Terrafosa a mis du temps avant de sortir quelque chose qui le représente vraiment.
Et donc ça a été l'EP, éponyme.
C'est ça, exactement.
D'accord. Donc à partir de ces fondations-là, l'enchaînement se fait beaucoup plus rapidement. Un EP, maintenant un album, et puis bon, la suite on verra, mais
C'est
c'est.
ça.
D'accord, ok. Donc effectivement, peut-être les 10 premières années étaient plus sur de la construction de votre identité musicale.
Oui, c'est tout à fait ça.
Deux éléments sur des aspects plus visuels. Peut-être un mot sur la pochette. Alors j'ai vu que ça a été fait par Vincent Dubout,
C'est
hein,
moi.
voilà. donc en interne, et puis des photos par Denis Goria qui vous avez déjà auquel vous aviez déjà collaboré dans le passé.
C'est ça, ouais. Donc Denis, c'est celui qui fait il fait toutes les photos du groupe. Ça fait un moment maintenant qu'on le connaît et qu'on travaille avec lui. Donc on a vraiment voulu insister sur le côté comment dire, un peu mode presque, parce que donc pour expliquer ça, je vais faire un petit parallèle, c'est en tant que groupe français, on a le sentiment d'avoir aussi un héritage culturel français. Et cet héritage culturel, il est notamment visible grave via la haute couture, parce que bon, la France est connue pour sa gastronomie dans le monde, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc la haute couture et d'autres choses. Et cet univers visuel, l'élégance un peu française, c'est quelque chose qui est reconnu mondialement, et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant sur la cover de cet album.
D'accord. Avec une volonté d'une façon ou d'une autre de vous mettre en avant aussi vous? Ou c'est plutôt la photo qui a fait la. Enfin voilà.
Non, on a plus fait ça dans une démarche vraiment de reprise des codes de la mode et tel qu'on pourrait le voir un peu dans un magazine, si on regarde bien un peu la façon dont c'est mis en page, l'utilisation du noir et blanc, l'agencement des typographies, le choix des typographies, tout ça, c'est un ensemble en fait.
D'accord.
C'était pas une volonté spécifiquement d'être nous-mêmes en couverture, hein, c'était le projet global en fait.
Jusqu'à présent, vous avez été plutôt sobre dans vos pochettes. Donc, on a dit l'EP, c'était l'araignée. Blanche au fond noir. Là, c'est aussi assez sobre. Vous, photo noir et blanc. Effectivement, un certain chic français. Il y a une volonté, peut-être dans le futur, de développer comment dire, il y a des visuels plus spécifiques ou une identité plus forte? Enfin, plus forte, différente.
Je vois, ouais. Oui, on a pas mal d'idées qu'on creuse, et je pense qu'on sera toujours un peu dans cet esprit quand même de l'élégance un peu à la française. Après, ça peut prendre des formes un peu différentes, ça peut être comment dire agrémenté d'autres éléments. Je sais pas exactement encore ce que ça donnera, mais globalement, on est quand même un peu je pense qu'on va rester un peu dans cet esprit.
D'accord. Toujours dans le même mouvement. Donc vous avez sorti un clip vidéo pour The Curse of Chronos, donc qui est le deuxième titre. Là aussi, toujours dans la même chose, hein, noir et blanc. On voit le groupe en train d'assurer le titre. Comment s'est passé entre guillemets l'enregistrement de la vidéo et est-ce que vous avez d'autres projets de ce type-là dans les tuyaux?
Alors, en fait, ça s'est fait en plein pendant le confinement, parce qu'on devait à la base faire notre clip avec Denis Goria qui a fait aussi les photos du coup. Malheureusement, le confinement est tombé pile au moment où plus personne pouvait sortir, et on voulait pas pour autant se priver d'un visuel. On voulait absolument sortir un clip pour le Curse of Chronos, et du coup on a fait ça nous-mêmes dans notre studio, en essayant de trouver les plans les plus esthétiques possibles avec les handicaps qui nous étaient mis sur notre route quoi, essayer de travailler aussi une image la plus belle possible avec le matériel qu'on avait, enfin bref, voilà, c'était plus faire le noir et blanc, c'est toujours quelque chose qu'on a voulu faire. C'est très probablement quelque chose qu'on aurait fait avec Denis aussi de toute façon. Là, on l'a fait dans une situation particulière avec le matériel qu'on avait. Et à terme, je pense qu'il y aura, peut-être pas pour cet album-là, mais pour le prochain, il y aura forcément un vrai clip qui sera prévu, quoi.
D'accord, parce qu'effectivement, vous avez sorti aussi un clip où on te voit jouer je pense que c'est le Stigmata, mémoire, à la guitare.
Ouais.
Donc, bon, d'accord. Donc, l'idée, c'est pas d'enregistrer une vidéo dès que maintenant le confinement est terminé, mais dans les semaines qui viennent.
Non,
C'est
non, non.
sur du plus long terme.
Ouais, je pense, oui.
Bah donc dernière question, parce qu'on arrive au bout. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les semaines et les mois qui viennent? Ou
Eh bien, déjà,
ce qui est prévu?
les concerts qui avaient été annulés, de pouvoir les faire, espérant que tout le monde puisse se remettre, comment dire, remettre en place ce qu'ils avaient prévu. Et puis voilà quoi, hein. C'est ça surtout les projets directs là.
D'accord. Bah écoute, merci donc d'avoir pris le temps de nous répondre et puis bah, tous nos vœux pour la suite.
Bah, merci beaucoup.
À
Bonne soirée à
bientôt.
toi.
Toi aussi.
Au revoir.
Ciao.